session de théologie par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 26 août 1993, 9e conférence.
On verra les questions plus tôt, tout à l'heure. Je m'excuse, mais je crois que c'est mieux pour avancer. Je suis resté hier devant une question, du moins devant une référence importante que je voudrais voir tout de suite maintenant, qui continuera un peu ce que nous avons dit hier. C'est dans la prière sacerdotale du Christ, un passage qui est très beau et qui, je crois, nous aide à comprendre le mystère de l'Esprit-Saint. Et comme toujours, une prière du Fils bien-aimé à son Père dit les secrets. Je crois que c'est dans la prière sacerdotale, dans cette prière du Fils bien-aimé au Père, que nous découvrons ce qu'il y a de tout à fait ultime dans la révélation de l'évangile de Saint Jean. Père, elle est venue l'heure, glorifie ton Fils. Il est bon pour vous que je m'en aille, hein? N'oubliez pas cette affirmation. Et enfin, Jésus explique pourquoi il est bon pour vous que je m'en aille. Il le dit expressément. Autrement, je ne pourrais pas vous envoyer le paraclet. Il s'en va pour nous envoyer le paraclet. Et qu'est-ce que c'est que ce départ de Jésus ? Père, elle est venue l'heure. C'est bien l'heure. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui aies donné pouvoir sur toute chair, afin qu'à tout ce que tu lui as donné, il donne à cela la vie éternelle. C'est le mystère de la glorification. Quel est le lien entre l'Esprit Saint et la glorification? Et ce n'est pas dit expressément, mais il y a là un très grand mystère qu'on doit essayer de regarder. C'est toujours très impressionnant ce passage. Elle est venue l'heure de la séparation, du retour vers le Père. Et ce retour vers le Père glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Alors qu'est-ce que c'est que cette demande de Jésus? Glorifie ton Fils. Qu'est-ce que c'est que la gloire? Dans l'Écriture, on trouve constamment la gloire. C'est très difficile à préciser. J'ai lu quelques années, une grande thèse, quelqu'un qui avait fait sur la question de la gloire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'était une thèse exégétique très intéressante, parce qu'elle rassemblait tous les textes. Mais il ne dit pas ce qu'est la gloire. Et Thomas d'Aquin ne dit pas grand-chose. Donc on est en face de quelque chose dépasse la théologie scientifique. Et je crois, personnellement, si on essaie de comprendre ce que c'est que la gloire à travers toute l'Écriture, la gloire, c'est proclamer la victoire. C'est quelqu'un qui est victorieux, qui est glorifié. Quand vous n'êtes pas victorieux, vous n'êtes pas glorifié. Quand vous avez raté une bataille, manquer complètement de bataille, on ne va pas vous glorifier. Tandis qu'on glorifie quelqu'un quand il a réussi, surtout aujourd'hui, Les hommes regardent surtout ça. Quand il s'agit de Dieu, vous comprenez bien, il ne s'agit pas d'une bataille. Quoique la croix est la bataille par excellence. C'est le sommet de tous les combats. Mais c'est un combat qui n'est plus humain. C'est un combat au niveau divin, entre l'amour et l'orgueil, l'exaltation de la créature contre Dieu. Et la croix, c'est la grande victoire de l'amour. Dans le cœur de Jésus. Jésus s'offre lui-même en victime d'amour. Et c'est la grande victoire de l'amour contre le péché, contre la haine, contre l'injustice, contre les ténèbres. Tout est impliqué dans cette grande victoire de la croix. Sagesse de la croix. Alors Jésus demande au Père, glorifie-moi. Jésus demande au Père d'être présent. La croix, c'est la grande lutte du Fils bien-aimé qui obéit au Père dans son humanité sainte. Et donc c'est l'œuvre du Père et du Fils. Puisque c'est une œuvre d'amour et d'obéissance. Et le Fils va glorifier le Père dans la mesure même où il est glorifié, puisque tout est pour le Père. Et c'est bien ce qui est montré. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Et un peu plus loin, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Là, Jésus explique ce que représente cette gloire. Il demande au Père, dans son humanité sainte, dans son âme, d'être glorifié de la gloire qu'il avait auprès du Père avant la création du monde. Quelle est la gloire du Fils avant la création du monde? Il me semble, je ne peux pas dire plus, il me semble que c'est lorsque le Fils avec le Père, spire l'amour. Est-ce que ce n'est pas là où nous touchons la gloire divine dans ce qu'elle a de plus secret, de plus personnel, de plus grand et extrême? Si on veut contempler le mystère de la très sainte Trinité, la plus grande gloire du Fils, c'est d'être un avec le Père et de faire l'œuvre du Père, qui n'est plus une œuvre, spirer l'amour. C'est au-delà de toute œuvre. Spirer l'amour dans le fruit de l'Esprit Saint. Je ne peux pas découvrir autre chose qui puisse glorifier le Fils plus que cela. Alors, on découvre cette prière très personnelle et pleine de confiance. C'est vraiment la prière du Fils bien-aimé. Seul le Fils bien-aimé peut dire ça. simple, j'aime mieux dire que c'est la prière du Fils bien-aimé que la prière sacerdotale. Ça dépasse le point de vue sacerdotal. Parce que le point de vue sacerdotal, c'est toujours le point de vue de la miséricorde. Or, il demande d'être glorifié de la gloire qu'il avait avant la création du monde. Donc c'est dans l'ordre de l'amour, avant la création du monde. Et il me semble que c'est cela que Jésus demande. C'est très secret. Mais c'est très grand. Parce que ça nous fait comprendre ce qu'est l'Esprit Saint pour le Père et pour le Fils. Et en définitive, c'est cela que nous devons comprendre. Tant que nous ne comprenons pas ça, nous n'entrons pas dans le mystère d'Esprit Saint. Tant qu'on ne découvre pas que le Fils est tout pour le Père et qu'il est tout relatif au Père, on ne comprend pas ce qu'est le Fils. Et tant qu'on ne voit pas ce qu'est l'Esprit Saint pour le Père et le Fils, on ne saisit pas ce qu'il y a d'ultime dans le mystère de l'Esprit Saint. Et je crois qu'on peut dire que c'est ce grand mystère de la gloire du Père et du Fils, source de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui, en tant que fruit de cette inspiration du Père et du Fils, et la gloire du Père et du Fils. C'est l'amour de l'amour. C'est l'amour qui, dans l'Esprit Saint, connaît ce qu'il y a de plus intime dans l'amour, ce qu'il y a de plus profond dans l'amour, ce qu'il y a de plus personnel dans l'amour. Ce qu'il y a de plus extatique dans l'amour, la grande extase du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, extase éternelle. L'Esprit Saint n'ajoute rien à la simplicité de Dieu, mais il est celui qui glorifie le Père et le Fils dans l'unité et dans leur unité. Et Jésus demande. C'est là l'œuvre par excellence de l'Esprit Saint de permettre à l'âme de Jésus, par la plénitude de grâce qu'il reçoit de la très sainte Trinité, au plus intime de son âme, d'être comme instrument d'amour, celui qui participe à cette inspiration d'amour. Et c'est dans cette union si intime avec le Père et le Fils que l'âme du Christ connaît la gloire suprême du Père et du Fils. Voyez, relisez attentivement ce texte, souvent, comme toujours l'Écriture, il faut lire et relire et supplier l'Esprit Saint de nous éclairer, c'est-à-dire de nous faire vivre ce qui est dit, et pas seulement le dire. Il faut apprendre par cœur ce petit texte et le redire constamment. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus grand dans l'oraison. C'est de vivre de cette gloire du Père et du Fils. Si je regarde les écrits de Saint Jean de la Croix dans Vive Flamme d'amour, Saint Jean de la Croix n'hésite pas au fond d'exprimer ça. Il ne le dit pas comme je le dis, parce qu'il le dit comme expérience, et donc il ne l'analyse pas. J'essaie de l'analyser au point de vue théologique, de théologie mystique. Ce qu'il y a d'extraordinaire. Hein? Alors là, on doit bien essayer de saisir cela. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu ne peut pas se servir d'instrument pour la création. Donc il ne peut pas se servir de l'humanité sainte de Jésus pour la création. Grande thèse théologique là-dessus, qui est très ancienne. L'œuvre de la création relève de la toute-puissance de Dieu immédiate. C'est pour ça qu'il y a une union substantielle entre la créature et son créateur. Tandis que Dieu peut se servir d'un instrument dans l'ordre de la communication de la vie éternelle, dans l'ordre de sa vie personnelle. C'est curieux, vous voyez, c'est là où notre logique est complètement bouleversée, ce qui est très bon. De temps en temps que la logique humaine soit obligée de dire « on n'y comprend rien si je reste au niveau logique ». L'œuvre de la création est une émanation ad extra. Donc, ce n'est pas ce qui est le plus intime en Dieu. Tandis qu'au contraire, les processions divines, c'est la vie même de Dieu et la vie personnelle de Dieu. Alors, on serait tenté, nous, avec notre petite logique humaine, de dire, pour tout ce qui est ad extra, tout ce qui est ad extra, c'est-à-dire en dehors du mystère de Dieu, Dieu peut servir un instrument. Tandis que ce qui est très intime, non ? Alors c'est là où nous devons comprendre toute la différence qui existe entre l'amour divin et notre amour humain. Notre amour humain est terriblement captatif. L'amour divin est terriblement extatique. Et c'est pour ça, parce qu'il est extatique, il peut introduire au plus intime de son mystère le cœur humain de Jésus, l'âme humaine de Jésus, l'humanité sainte de Jésus et l'humanité sainte de Marie. Et chacun d'entre nous dans le mystère de l'oraison. Quand on comprend un peu cela, l'oraison prend alors à ce moment-là une valeur unique. On est introduit par l'Esprit Saint au plus intime du mystère de Dieu. Pour être glorifié de la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit. Et dans l'oraison, nous vivons de l'aspiration du Père, du Fils. Et nous vivons de la procession du Verbe par l'Esprit Saint. Dans une pauvreté radicale pour laisser toute la place à Dieu. Parce que il s'agit de vivre éternellement ce que Dieu vit. Et nous pouvons, dès cette terre, ça c'est l'œuvre par excellence de l'Esprit Saint, c'est de nous introduire dans le mystère intime et personnel du Père et du Fils. Et donc son propre mystère. C'est pour ça que je trouve si grand cette prière sacerdotale du Christ. Puisque elle nous est donnée, vous comprenez ? Si seul Jésus devait connaître cette gloire, il ne pourrait pas nous la communiquer. La révélation deviendrait une vitrine. Si Jésus nous la communique dans sa révélation ultime, chapitre 17, c'est la fin de la vie du Christ sur la terre. Ensuite, ce sera la croix, et la croix, c'est avant tout silence. La croix est un témoignage. Et son ultime enseignement, c'est chapitre 14, 15, 16, 17. Et dans cet ultime enseignement, cet enseignement se termine dans une prière. Ce qui montre bien la nécessité d'une théologie mystique. Puisque la prière ne peut être portée que dans une théologie mystique. L'enseignement du Christ se termine dans une prière, c'est-à-dire dans la communication des secrets. La prière, c'est ça. Vous ne priez vraiment que quand vous communiquez les secrets de votre cœur à Jésus. Et tant que vous ne communiquez pas vos secrets de votre cœur à Jésus, vous ne priez pas. Vous répétez. C'est très bien, des petits novices. On est toujours un peu novices, hein, dans l'oraison. Alors on répète. Il vaut mieux répéter que de rien faire du tout. Et la prière, puisqu'elle est l'alliance de l'époux et d'épouse, l'alliance du Fils avec son Père bien-aimé. La prière, c'est la communication des secrets. Des secrets du Père à son enfant. Père, glorifie ton Fils pour qu'il puisse te glorifier. Donc je crois que là on touche ce que nous pouvons dire d'une manière ultime sur l'Esprit Saint. Et c'est magnifique de voir que Jésus le dit dans une prière. À demander, et c'est très bien, de préciser théologiquement comment le théologien, pénétrant dans le mystère de la très sainte Trinité par le point de vue des processions, peut alors parler de l'Esprit Saint comme une personne, peut parler du Verbe comme le Fils bien-aimé, peut parler du Père comme une personne. C'est vrai, il y a quelque chose de très important là. Découvrir, autant qu'on le peut, en balbutiant, hein, en disant toujours comme le prophète, ah, ah, ah. On balbutie quand on parle de la très sainte Trinité. Et saint Augustin le dit. Et nous savons. Et saint Augustin nous dit, même sur le balbutie, soyons suffisamment humbles pour en parler. Donc nous chassons toute rhétorique, puis comprenons qu'on est en face d'un mystère d'amour qui nous dépasse complètement. Le terme de la procession, de cette procession qui est une génération, le terme de cette procession, c'est le Verbe qui est le Fils bien-aimé du Père. C'est pour ça du reste que c'est une génération. Parce qu'elle se termine à une personne. Et en toute vérité, c'est cette relation divine, personnelle, entre le Père et le Fils. C'est le mystère de la paternité. Et c'est le mystère de la filiation. Comment le Fils est-il Fils ? Comment le Père est-il Père ? Il est Père en étant source et en donnant tout ce qu'il a dans l'unité parfaite. Il y a une unité parfaite entre le Père et le Fils dans la simplicité la plus absolue. La seule distinction, c'est la relation de paternité et de filiation. La seule chose qui distingue le Père du Fils, comme personne, c'est sa paternité. Et la seule chose qui distingue le Fils du Père, c'est sa filiation. C'est donc la relation entre le Père et le Fils. Une relation vécue d'une manière substantielle dans l'amour et dans la lumière. La relation de paternité, c'est le Père qui est source de tout ce que le Fils est. Et la relation de filiation, c'est cette relation du Fils qui reçoit tout du Père. Vous voyez, la relation de paternité, au point de vue humain, n'est jamais substantielle. Le Père, notre Père, parce que nous avons eu tous l'expérience de la filiation, et que nous avons tous une expérience de paternité, ou selon la chair et le sang, point de vue humain, ou paternité spirituelle. Et la paternité spirituelle est au-delà du sacerdoce ministériel, grâce à Dieu. C'est pour ça qu'on peut parler d'une maternité spirituelle qui est en réalité le complément de la paternité spirituelle. Au point de vue humain, je suis prédestiné, au point de vue humain et divin, je suis prédestiné à être enfant de Dieu. Au point de vue humain, la paternité n'est pas identique avec ma personne humaine. Et donc, le Père, comme Père, est toujours limité dans sa paternité. Ce qui est de merveilleux en Dieu, c'est que la paternité prend tout. C'est une paternité substantielle. Qui prend tout. Le Père est Père dans tout ce qu'il est. Il est Père dans sa simplicité. Tout ce qu'il est donné. C'est ça le Père. Regardez ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, dans Saint Luc. À propos de l'enfant prodigue, ce n'est qu'une parabole, donc ce n'est qu'une comparaison, mais qui est magnifique. Quand vous voyez le Père qui attend le Fils prodigue, il l'attend. Avant que le Fils revienne au Père, le Père l'attend. Et c'est grâce à l'attente du Père que le Fils revient. Si le Père n'avait pas attendu le Fils imparvenu. Le Père devance, c'est le propre du Père, il devance tout. Quand il s'agit de la paternité divine, il devance parce qu'il est premier, mais il ne devance pas dans le temps, puisque c'est dans l'éternité. Et le Fils est Fils éternellement, comme le Père est Fils. Et comme le Père est Père éternellement. Mais ce qui est magnifique, c'est de voir qu'entre le Père et le Fils, il y a ce lien substantielle dans l'unité. Et il y a cette distinction radicale et ultime qui fait que tout le Père, en tant que Père, est distinct du Fils dans l'unité. Ne cherchez pas à comprendre, mais contemplez. Là, on voit que l'amour divin est autre chose que tout ce que nous pouvons concevoir. Que par le don de sagesse, don du Saint-Esprit, nous pouvons vivre de cette paternité. L'Esprit Saint, au plus intime de nous, nous fait dire Père. Et nous vivons alors de cette paternité. Et l'Esprit Saint, au-dedans de nous, nous fait dire Jésus. Et nous vivons de cette filiation. Et l'Esprit Saint, au plus intime de nous-mêmes, nous fait comprendre qu'il demeure en nous. Et nous vivons cette spiration. Donc, comprenez bien que le mystère de la paternité, de la filiation, qui distingue les personnes du Père et du Fils, ne peut s'exprimer pour nous que dans une relation de paternité de filiation. Et l'Esprit Saint ne peut s'exprimer comme personne que dans cette relation de celui qui reçoit tout du Père et du Fils dans l'unité. Et celui qui est fruit de cette extase d'amour. Je ne dis pas qu'il est dans une dépendance, mais il est dans une relation toute d'amour. Comme celui qui aime son ami est tout entier attiré par lui et vit de l'attraction de l'amour. L'Esprit Saint, lui, dans sa personne, amour de l'amour, fruit de cette spiration, il est celui qui est le fruit de l'amour et qui vit de cette attraction dans tout ce qu'il est. C'est peut-être cela qui nous fait comprendre le paraclet. Parce que comme il est tout entier, fruit de cette extase, il est celui qui est tout entier tourné vers le Père, le Fils, et par eux, tout entier tourné vers nous. Il nous est donné. Donc, ce qu'il est pour le Père et le Fils, il l'est pour nous. Et c'est cela que nous disons, que nous exprimons par le paraclet. Alors, on peut dire qu'il a cette attention, cet éveil, cette écoute, cette capacité merveilleuse de tout comprendre, de tout garder. Et l'Esprit Saint aime qu'on lui communique tous les secrets de notre cœur, les joies et les misères, ce qui nous blesse et ce qui nous donne force. Les sept dons du Saint-Esprit expriment l'emprise de l'Esprit Saint sur nous. Les sept dons de l'Esprit Saint. Le paraclet, c'est celui qui est tout amour pour nous. L'amour lumineux, le don d'intelligence, l'amour glorieux, le don de sagesse, l'amour qui donne cette vulnérabilité pour ne jamais confondre l'amour de Dieu et l'amour humain, le don de science, l'amour qui veut que tout soit ordonné à l'amour, le don de conseil, l'amour qui fortifie et qui permet d'aller jusqu'au témoignage ultime du martyr, l'amour qui lie et qui fait des liens d'unité, le don de piété, et l'amour qui met cette crainte aimante pour laisser toujours passer devant le Père. Les sept dons du Saint-Esprit sont comme dans notre âme le reflet du Paraclet. Et c'est l'image du Paraclet, ces sept dons du Saint-Esprit, qui nous permet d'être tout écoute comme lui-même est tout écoute, qui nous permet d'être réceptif comme lui-même est réceptif, qui nous permet de connaître cette vulnérabilité divine et cette, j'allais presque dire, cette distinction divine, cet affinement que fait le Saint-Esprit. Les saints ont un affinement unique qui vient d'Esprit Saint. Et c'est vrai que l'Esprit Saint nous donne une sensibilité divine, spirituelle. Tout ça, c'est au niveau le plus intime de l'âme que ça se réalise. Au plus intime de l'âme. Donc nous n'avons plus de mots et nous sommes obligés de prendre des mots au niveau sensible. Les sept dons du Saint-Esprit expriment cette emprise de l'Esprit Saint sur nous. Il nous étonne. C'est le Père qui nous le donne, c'est le Fils qui nous le donne. Et le Père et le Fils le donnent dans l'unité. Parce que le Père et le Fils nous le donnent dans l'unité, l'Esprit Saint permet ses gémissements, ses appels, ses cris, ce silence, cette paix intérieure, cette lumière des sept dons. Il y a quelque chose de très très grand là. Il faut essayer de bien saisir. C'est par là qu'on peut découvrir, on le disait au réfectoire, et c'est pour ça que je reprends cette lecture du cardinal Panels. Quand il regarde les fruits de l'Esprit Saint, il existe des charismes qui ne font pas de bruit. On les appelle les fruits du Saint-Esprit. Ce ne sont plus des charismes. Je comprends très bien qu'il dit que ce sont des charismes silencieux, et il le rappelle, parce que le charisme, souvent aujourd'hui, n'est pas toujours silencieux. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Mais les fruits de l'Esprit Saint, ce n'est pas à la suite des charismes, c'est à la suite des dons du Saint-Esprit. On les appelle les fruits de l'Esprit Saint. Ces fruits sont donnés à tous, personnellement et en communauté. En communauté, j'allais dire, au niveau de la charité fraternelle. La communauté, c'est le charisme. Mais les fruits sont donnés à tous, personnellement, et au niveau de la charité, de l'exercice de la charité fraternelle. Paul les énumère dans sa lettre aux Galates. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. dans l'Apocalypse, il y a aussi ces fruits. Et ces fruits sont multiples. Et ces fruits permettent de caractériser la sainteté chrétienne. Puisque c'est l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'autre sainteté que celle qui nous est donnée par l'Esprit Saint. Nos efforts, c'est très très bien, mais nos efforts sont jamais ultimes. Ils demandent d'être saisis par l'Esprit Saint pour être ultimes. C'est pour ça que nos efforts ne sont jamais des fruits. Nos efforts, c'est le labeur, c'est la sèse. Oui, très important la sèse. C'est nos volontés, mais ces assaises, ces actes de volonté. Je veux être un saint. Un novice doit se rappeler ça tout le temps. Un novice du Saint-Esprit. Je veux être saint, très Saint-Esprit. Je veux être un saint. Ça ne veut pas dire je veux fabriquer ma sainteté. Non, je veux être un saint. Je veux être dans une docilité parfaite à l'égard de tous les appels de l'Esprit Saint. Je veux être un saint, je veux. C'est notre volonté qui nous dispose. Mais notre volonté ne finalise jamais rien dans l'ordre de la sainteté. C'est là la différence entre le génie stoïcien, Épicure, et la sainteté chrétienne. Il ne faut surtout pas confondre. Épicure, c'est merveilleux, hein? C'est l'esclave devenu philosophe à Rome en l'an 50. Extraordinaire, ça. C'est pas le hasard qui fait ça, hein? Point de départ des fruits de l'Esprit Saint, il y a à Rome un philosophe stoïcien et extraordinaire qui a des sortes d'extase. Mais ce n'est pas l'extase du Saint-Esprit. C'est l'extase que le philosophe peut acquérir. On sait très bien quand on fait de la philosophie qu'on va jusqu'au bout, on pourrait très bien acquérir une extase. C'est-à-dire être quelqu'un qui, je ne dis pas qui plane, mais quelqu'un qui est totalement concentré dans sa contemplation philosophique. Et ça peut devenir un obstacle à la contemplation divine. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit demande un choix libre. Je choisis d'être pauvre et d'être dans la réceptivité totale à l'Esprit Saint. Et quand vous comparez Épictète et Saul de Tarse, et même Pierre, vous comprenez toute la différence qu'il y a entre le génie philosophique et la sainteté d'Esprit Saint. Il ne faut surtout pas confondre. Et aujourd'hui, c'est très important de comprendre la différence entre les deux. Parce que le stoïcisme renaît toujours dans les périodes de crise. Alors on est une période de crise. C'est peut-être la plus grande crise qui a existé dans l'humanité. Alors on essaie de se sauver par nous-mêmes, par des efforts volontaires. Alors on n'a plus besoin du sauveur. C'est la grande tentation. Et il faut que chacun d'entre nous, si nous avons un désir de sainteté, j'espère que vous l'avez puisque vous êtes ici, session à l'Esprit Saint ne peut être que pour ceux qui ont un désir de sainteté. Tous ceux qui n'ont pas un désir de sainteté n'ont aucune connaturalité avec l'Esprit Saint et donc ne comprennent rien du tout. Nous commençons à pouvoir entendre les gémissements de l'Esprit Saint que s'il y a cette connaturalité dans la sainteté, qui vient d'Esprit Saint, qui ne vient pas de nous. Donc si nous avons un désir de sainteté, comprenons bien qu'il y aura un moment, très vite, très très vite, entre le choix d'une sainteté stoïcienne qui peut exister au niveau intellectuel, qui peut exister au niveau de l'action familiale ou politique ou humaine ou humanitaire. Il peut y avoir un génie humanitaire, ça existe. Et puis la vraie sainteté. Alors, la vraie sainteté, voilà. Comment Saint Paul, qui sait ce que c'est? Saint Paul, si le Christ n'avait pas été là, aurait été un stoïcien numéro un. Comme pharisien. Les pharisiens, c'est la tentation du stoïcisme. Saint Paul, c'est quelque chose. On aurait aimé un dialogue entre Saint Paul et Épictète. C'est quelque chose d'assez beau, assez étonnant. La bonté, la justice, la vérité, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Vous voyez, il y a toute une série de... écrire amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Excellent examen de conscience sous la lumière de l'Esprit Saint. Est-ce que vous vivez de la bonté? La bonté, c'est pas quelque chose de mollasse. C'est pas quelque chose de doucereux. C'est autre chose, la bonté, c'est une fermeté rayonnante, attirante. Il y a des personnes qui sont parfaites et qui ne sont pas bonnes. Et c'est forcé que dans l'effort, il y a des moments où on est obligé, je ne dis pas de se durcir, mais d'être net. Autrement, on tombe dans la vaseline. Et la vaseline, c'est pas le signe de la bonté, c'est le signe de la mollesse. La bonté implique une très grande détermination. C'est ça qui fait comprendre comment le fruit de l'Esprit Saint en nous, c'est l'abandon. Et l'abandon déterminé, pas l'abandon qui prend la forme de la cuillère qu'il ramasse. La limace, c'est pas la bonté, pas du tout. Donc Galates, c'est important de voir ça. Galates, Éphésiens 5, 9. Et puis après, Timothée 1, 6, 11. Romains. Et ce n'est pas l'ordre du tout historique. Hein. 17. 2. Corinthiens. 6. 6, 7. Regardez tous ces lieux aujourd'hui. Pas simplement les lire. Hein. Une sorte d'examen de conscience. Sous la lumière d'Esprit Saint. Pour mieux comprendre tout ce qui en vous arrête l'emprise de l'Esprit Saint. tous ces manques, de ces fruits de l'Esprit Saint. Amour, paix, joie. Joie, joie intérieure. Pas nécessairement la joie sensible. On peut être triste sensiblement et être joyeux intérieurement. La joie de l'Esprit Saint n'est pas, vous voyez, l'extension extérieure, toute voile dehors. Non, c'est pas ça. C'est au contraire très intérieur. Toujours les fruits de l'Esprit Saint nous intériorisent. La patience. La force se traduit en patience. Patienter. Attendre l'heure de Dieu. Ça, c'est la force de l'Esprit Saint qui nous met dans la patience. Bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. C'est très grand, vous voyez, ces fruits de l'Esprit Saint. C'est très important de les comprendre et de les lier, alors là c'est l'œuvre du théologien, les lier aux sept dons du Saint-Esprit. Ils sont les fruits des sept dons. Bon, les sept dons, vous les connaissez. Je vous les écris pour ceux qui ne les connaissent pas. Sagesse, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de science, le don de conseil, le don de piété, le don de force, le don de crainte. Je crois qu'il y en a sept comme ça. Les sept dons. Alors il y en a qui sont très faciles à comprendre, les liens entre eux. Les fruits de l'Esprit Saint. Mais voyez, c'est donné dans un contexte tout à fait différent. Mais les deux, les sept dons, relèvent du texte d'Isaïe à propos de celui qui doit venir, à propos du mystère de l'envoyé. Et là, c'est descriptif. Pour compléter cela, il faut regarder les charismes. Je ne les regarde pas maintenant. Il faut regarder les charismes. Les charismes sont autre chose que les fruits, autre chose que les dons du Saint-Esprit. C'est différent. Les charismes sont plus extérieurs. C'est pour réchauffer le milieu, les charismes. Quand tel charisme est donné à tel homme de Dieu, ou tout simplement à quelqu'un, charisme de guérison, tout le monde accourt. On dira une heure de silence et d'oraison. Il y a moins de monde qui accourt. Vous voyez, c'est pas au même niveau. Dites pas que les charismes, c'est au niveau de la propagande. Hein. C'est pas ça. Les charismes sont du Saint-Esprit. Ils réchauffent le milieu. Ça, c'est très net. Pour préparer intérieurement à une écoute plus grande du Saint-Esprit. Les charismes n'ont pas de finalité en eux-mêmes, tandis que les dons du Saint-Esprit nous donnent le lien avec l'Esprit Saint, et c'est pour ça qu'il y a un fruit, le fruit d'une fin. Tandis que les charismes n'ont pas de finalité en eux-mêmes, ils sont en vue, ils sont de l'ordre de l'utilité. Mais comprenez bien, l'utilité divine, pas du tout l'utilité humaine, l'utilité divine. Nous sommes tous fragiles au point de vue de la grâce. Nous portons le mystère de la grâce dans des vases extrêmement fragiles. tant que nous sommes sur la terre, nous savons très bien que ces trésors de grâce que nous les portons à travers un pauvre être humain dont les concupiscences et les conséquences du péché originel demeurent. Et donc il y a toujours et très facilement des complicités avec l'action du démon. Surtout quand cette action du démon est visible. Alors, on a besoin de témoignages visibles, de réconfort visible. On a besoin. Il ne faut pas courir après les charismes, il faut les respecter. Et quelquefois, il faut dire aux personnes, allez dans tel lieu. Et là, vous verrez que ce lieu est très chaud. Apparition de la Vierge Marie. L'apparition, est-ce que c'est un charisme ? Ou est-ce que c'est de l'ordre de la grâce sanctifiante ? Ou est-ce que c'est de l'ordre des fruits de l'Esprit Saint ? Il faut bien distinguer les deux. Vous voyez, au plan théologique, alors, pas si commode que ça. Savoir quand la très sainte Vierge vient à Lourdes, prenons Lourdes. Souvent, ces apparitions de Marie ont tout un rayonnement de grâce charismatique. La guérison des malades, c'est une grâce charismatique. Et ce lieu est caractérisé par cela. Et ce lieu attire, à cause, pas seulement, de ces miracles. Il attire aussi parce que Marie a sanctifié une petite Bernadette. Et qu'on espère, quand on va à Lourdes, être toujours un peu Bernadette. Toujours. On fait un bon pèlerinage à Lourdes que quand on aspire à être Bernadette. Non pas nécessairement avoir une apparition, mais se mettre sous le regard de Marie. C'était le fruit de l'apparition. Bernadette, jusqu'à la fin de sa vie, n'a cessé de regarder le regard de Marie. Et je crois que c'est la grâce propre, c'est le fruit. Alors vous voyez, il faut bien distinguer le don de l'Esprit Saint. Et nous étonner personnellement. Il demeure en nous. Et ce don de l'Esprit Saint produit en nous la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est l'Esprit Saint qui demeure en nous, divinise notre âme. C'est la divinisation et c'est la première sainteté fondamentale. Il faut bien regarder ensuite comment cette charité s'épanouit en foi, espérance et charité. Et qu'il y a un lien particulier avec le Verbe de Dieu pour le mystère de la foi, avec le Père, le mystère de l'espérance et l'Esprit Saint. Le mystère de la charité. Mais la grâce est donnée par la très sainte Trinité. Et la grâce est source de la foi, de l'espérance et de la charité. Qui vient transformer du dedans notre intelligence et notre volonté. L'exercice de la charité peut se faire par volonté. Je veux aimer Dieu. Et je chasse toutes les tentations. Je veux aimer Dieu. Vous avez un exercice humain, volontaire, de la charité. Il peut se faire aussi que voulant aimer Dieu, l'Esprit Saint est ému de notre bonne volonté. Et l'Esprit Saint, à ce moment-là, vient transformer l'exercice humain de la charité en un exercice divin. Par les dons du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit sont présents partout où il y a le rayonnement de la charité. Nous sommes divinisés dans tout notre être. Et le rayonnement de la charité se fait sur tout notre être. Et les dons du Saint-Esprit sont là pour permettre ce rayonnement de la charité de se faire de la manière la plus forte. Et comme nous vivons en communauté chrétienne, qu'il y a le corps mystique, que nous vivons dans des familles chrétiennes, que nous vivons dans des communautés chrétiennes, il y a les charismes qui permettent de passer de l'extériorité à l'intériorité pour que tout ce qui est extérieur, loin de nous extérioriser en nous distrayant, tout ce qui est extérieur soit vécu d'intérieur et de plus en plus vécu d'intérieur. Alors c'est les charismes qui permettent de sanctifier le milieu.